France Culture. Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Lorsqu'on parle de contrefaçon dans l'inconscient collectif, on a plutôt tendance à s'imaginer qu'il s'agit plutôt de produits de luxe. Mais la contrefaçon s'initie dans tous les pans de la maison de chacun.
Ces contrefaçons génèrent la majorité des produits dangereux et non conformes.
Quand on achète une contrefaçon, on alimente des réseaux de criminels. Il faut l'avoir à l'esprit. Ce n'est pas un achat neutre, ce n'est pas un achat sans conséquences.
Dans l'esprit des contrefacteurs, finalement, c'est moins risqué de vendre de la contrefaçon que de vendre du stupéfiant.
Dans le précédent rapport, on avait montré quand même les liens du tabac contrefait avec le financement des réseaux terroristes de Boko Haram.
Les chiffres donnent le vertige. Au sein de l'Union européenne, les produits de contrefaçon coûtent chaque année 16 milliards d'euros et 200 000 emplois aux trois seuls secteurs de l'habillement, des cosmétiques et des jouets. Selon les estimations de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, la France est particulièrement exposée. Tous secteurs économiques confondus, c'est après les États-Unis le deuxième pays du monde le plus touché. Sacs à main, vêtements, parfums, en matière de contrefaçon, c'est au luxe que l'on pense avant tout. Mais les jouets, l'électronique et les médicaments figurent également parmi les produits les plus contrefaits. En réalité, tous les secteurs sont touchés. Le développement du commerce en ligne et des réseaux sociaux favorise le phénomène et le volume de produits en circulation ne cesse d'augmenter. En ces temps d'inflation, les consommateurs se laissent facilement tenter, sans mesurer les risques qu'ils prennent eux-mêmes. Car la contrefaçon n'est pas seulement illégale. Ces faux, produits en dehors de toutes normes sanitaires et environnementales, peuvent s'avérer dangereux et les revenus qu'ils génèrent profitent souvent à des réseaux criminels. Contrefaçon, faux produits, trafic authentique, c'est un reportage signé Diane Berger. Bonjour Diane.
Bonjour Aurélie, bonjour à tous.
Obtenir des témoignages sur la contrefaçon n'a pas été évident, notamment parce que les entreprises qui en sont victimes sont très réticentes à en parler.
Oui, les marques reconnaissent rarement être victimes de contrefaçon. Un tel aveu est associé à un risque pour l'image et la réputation de leurs produits. Impossible donc de les convaincre de parler. Pour obtenir des interviews et dresser un tableau de la situation, il a fallu toquer à la porte de leurs interlocuteurs. Les pouvoirs publics d'abord, comme les douanes, l'INPI. Je suis aussi passée par des intermédiaires, des associations d'entreprises, l'Unifab par exemple, l'Union des fabricants pour la protection de la propriété industrielle, créée justement pour lutter contre la contrefaçon. Car le sujet a beau être tabou, il préoccupe les marques. Selon les chiffres donnés par l'Union européenne, rien que dans les secteurs de l'habillement, des cosmétiques et des jouets, on parle de 15 000 emplois perdus en France. Les consommateurs, eux, sont plutôt nombreux. Environ 4 personnes sur 10 ont déjà acheté de la contrefaçon. Pour la plupart, en toute connaissance de cause, alors que c'est loin d'être un acte anodin.
Diane, vous êtes en studio avec moi à Paris et notre invitée se trouve à Alicante, en Espagne. Bonjour Claire Castel.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes responsable du service sensibilisation et connaissance de la propriété intellectuelle à l'EUIPO, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle. Pouvez-vous, en quelques mots, nous préciser les missions de cette agence ?
Oui, l'Office européen de propriété intellectuelle s'occupe depuis maintenant un peu plus de 30 ans de l'enregistrement des marques et des dessins et modèles et a accueilli depuis 2012 un réseau européen dédié spécifiquement à la lutte contre la contrefaçon et la piraterie.
Et vous êtes, Claire Castel, l'autrice du dernier rapport de l'EUIPO sur la contrefaçon. Un problème dont le reportage de Diane Berger va nous aider à mesurer l'ampleur. Nous allons d'abord en banlieue parisienne, au Puce de Saint-Ouen, où l'on trouve un véritable supermarché à ciel ouvert dédié à la contrefaçon.
Alors là, nous sommes dans le nord de Paris, au Puce de Saint-Ouen. C'est un endroit très connu pour ses antiquaires. Mais au-delà de la partie officielle des puces, qui est d'ailleurs très reconnue dans le monde de la culture, qui est très conseillée aussi dans tous les guides touristiques, il y a la partie officieuse. Alors il faut se rendre compte, c'est des rues tout autour, couvertes d'étals, où l'on vend un peu tout et n'importe quoi. Le souci, c'est que les vendeurs changent de visage quand on leur dit qu'on est journaliste. Ce que vous allez entendre, la petite promenade que l'on va faire ensemble a été enregistrée de manière très précaire. Je suis désolée pour parfois la qualité du son qui est mauvaise.
Bonjour.
Cette basket-là, vous la vendez combien ?
25 euros.
25 euros.
Oui.
On dirait presque une vraie, c'est super bien fait.
Oui.
C'est presque dommage qu'il y ait le logo, vous devriez éviter les
mais sans logo, ouais.
Ça se vend moins sans logo ?
Oui.
Bonjour madame.
Bonjour.
Elle est belle ça.
Ah, elle est jolie. vous la vendez combien ?
Au lieu 40 euros, je vendais 35 euros.
35 euros ? Non, non. À ce prix-là, j'imagine que c'est pas la vraie.
Non, c'est pas la vraie, madame. C'est quel porte-client, quoi.
Les sandales, bon, là, avec les logos des marques, c'est à combien ? Ah, vous voulez parfois ?
Bien sûr. Un coup d'avis.
Vous les vendez combien à peu près ?
15 euros.
15 euros les parfums ?
Et le petit, 4 pour 10 euros.
4 pour 10 euros. Et c'est des vrais ? Parce qu'à ce prix-là, c'est vraiment pas cher.
Non, c'est moins concentré.
C'est moins concentré ?
Par exemple, les vrais tiennent 3 jours. Celui-là, il va tenir un jour et demi, tu vois.
Ouais, sur la peau, vous voulez dire ?
Ouais.
Ils tiennent moins longtemps ?
Ouais.
Et comment c'est fait ? C'est que ça a été dilué ? C'est que vous avez...
Aucune idée.
Vous
voulez sentir, hein ?
Je veux bien sentir, ouais. Ah oui, ça a une vraie odeur de parfum, ouais, c'est vrai. Ah ben, je réfléchis. Moi, je pensais pas que ça marchait aussi bien. Bon, je fais un petit tour, je réfléchis, je reviens.
Promis, je vous attends.
Bonne journée.
Il suffit de se promener une vingtaine de minutes là dans les allées autour des puces de Saint-Ouen pour se rendre compte de l'ampleur du problème. En vraiment quelques minutes, on m'a proposé des écouteurs sans fil de contrefaçon dont on ne connaît pas l'origine, des écharpes avec le monogramme d'une marque bien connue, j'ai vu des sacs de luxe refaits qui souvent sentent le plastique et le cuir n'a pas l'air d'être véritable. Beaucoup de baskets aussi qui imitent des modèles bien connus, vendus parfois des centaines d'euros. Parfois, certains modèles de baskets, c'est juste une chaussure qui n'a rien à voir, mais sur laquelle on a collé le gros logo d'une marque. On m'a proposé des tongs avec des logos de marques de luxe bien connues, là encore. Voilà, ça prolifère. Ah oui, il y a aussi des parfums. Ça aussi, c'est assez surprenant. Des parfums vendus très peu cher, 4 euros le lot de 10, par exemple. C'est assez saisissant. Ici, aucun vendeur ne le cache, les articles sont des faux. Mais parfois, le client est dupé, notamment lors d'achats en ligne, alors les internautes s'organisent.
On va pas passer par quatre chemins. On a deux sacs, un vrai et un faux. Vous avez 10 secondes dans les commentaires pour me dire à votre avis lequel est vrai, lequel est faux. Si vous avez commenté que celui-ci était le vrai, je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Pourquoi ? Parce que je vais vous expliquer.
Look à la mode, maquillage soigné et longs ongles verts émeraude, Emmanuel Sitz tourne des vidéos pour ses comptes TikTok et Instagram. Quand on la rencontre sur ces deux réseaux, elle cumule 600 000 abonnés.
Restez jusqu'à la fin, je vais vous donner des conseils pour bien faire vos litiges.
Je suis avec Emmanuel Sitz. Emmanuel, comment est-ce que vous aimez qu'on vous présente ? Juste dire influenceuse, c'est peut-être un peu réducteur. Comment est-ce que vous aimez vous définir ?
Moi, j'aime bien qu'on dise que je suis créatrice de contenu et j'avoue, je me suis autoproclamée experte du luxe sur les réseaux sociaux.
Et dans votre expertise du luxe, il y a un aspect de votre travail sur vos vidéos notamment. Vous alertez souvent vos abonnés sur ce qui distingue un vrai sac de luxe, par exemple, d'un faux sac de luxe, un vrai modèle d'une contrefaçon. Comment c'est venu cette idée ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Comment c'est né ?
Alors, ça a commencé par une passion, tout simplement. J'étais vraiment passionnée par le luxe. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais pas forcément l'argent pour commencer à acheter des sacs de luxe, en boutique en tout cas. Donc, j'ai commencé à m'informer sur les différentes plateformes qu'il y avait, comment acheter du luxe en seconde main finalement. Et en fait, en commençant à acheter, je me suis rendu compte que je me faisais beaucoup arnaquer aussi. Donc, en fait, oui, c'était un déclic dans le sens où j'ai dû m'informer moi-même pour essayer de comprendre, pour essayer de voir les détails, la fabrication. Tous les détails en fait d'un sac qui faisait de ce sac un authentique. Et c'est vrai que en fait je me suis dit, si moi passionnée par le luxe je me faisais arnaquer, mais qu'est-ce que c'est la nana qui est en école de mode, qui a envie de se faire plaisir? Je me suis dit, mais enfin, dans ce cas-là, il faut que je partage ce que j'ai appris en fait pendant plusieurs années, il faut que je le partage au plus grand nombre, et les réseaux sociaux, c'est la facilité.
C'est quoi les choses les plus improbables que vous ayez découvert et mis en avant ensuite sur vos comptes?
Les plus improbables, en vrai, il y a pas de limite. Finalement, il y a pas de limite. Je pense que les plus improbables, ça serait peut-être les fausses factures. Quand vous achetez un sac de luxe, on vous remet du coup une facture d'achat, tout simplement. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que quand on voulait acheter un sac de luxe, la première chose qu'on demandait au vendeur, c'était s'il y avait une facture. Et je pense que de fil en aiguille, les gens se sont rendus compte, enfin les contrefacteurs se sont rendus compte qu'on demandait la facture et du coup ils ont créé des fausses factures. Et maintenant il y a même des sites internet où on peut acheter des fausses factures. Enfin, c'est devenu sans limite.
En fait, ça, ce qui est sidérant, c'est que même ce qui était censé servir à certifier peut être contrefait.
Bien sûr, mais en fait il y a pas de limite. C'est toujours pareil, il y a pas de limite. Et puis en plus, ils sont de mieux en mieux faits. Les contrefaçons sont de mieux en mieux faites parce que on se rend compte que les faux d'avant ne se vendent pas aussi bien que les faux d'aujourd'hui, qu'on appelle d'ailleurs les super fakes, parce qu'ils sont super bien faits, qui sont mis sur le marché super rapidement par rapport à l'authentique qui vient de sortir. Un super fake peut sortir 2 semaines plus tard à un prix défiant toute concurrence.
C'est la première fois que j'entends ce terme de super fake. C'est vrai que c'est ce qu'on voit dans ce que vous décrivez, c'est des faux, mais qui sont tellement... et qui à la fin sont pas non plus vendus bon marché. On voit des faux qui vont être vendus à des prix parfois pas forcément comparables avec le prix neuf d'achat sorti d'une vraie maison de luxe, mais on voit des faux à un budget un peu conséquent.
Bien sûr, parce qu'en fait, les conditions de fabrication sont plus du tout les mêmes qu'avant. Donc en fait, ils mettent le budget. Littéralement, ils mettent le budget et c'est sûr qu'on se retrouve avec des faux à 500, 600 euros parfois. Mais VS, le prix d'origine en boutique qui est à 2000, 2500, 3000, forcément, ça reste intéressant, entre guillemets, malheureusement. Et c'est vrai que aussi, on a de moins en moins l'aide des maisons mères, donc des maisons de luxe, qui en fait ne peuvent pas nous aider justement par rapport à ces super fakes qui sont tellement bien faits, qu'en fait quand vous arrivez avec un sac de luxe dans la maison mère, on ne peut pas vous dire si c'est un authentique ou une contrefaçon, non. En fait, ils ne sont même pas habilités à le faire parce qu'il y a tellement de faux bien faits qu'aujourd'hui, ils prennent même plus le risque de vous dire que c'est un authentique alors que c'est une contrefaçon.
Des faux qui touchent donc les grandes maisons de couture. Mais pas uniquement, c'est ce que l'on va découvrir maintenant au musée de la contrefaçon. Un petit établissement sur un étage dans le 16e arrondissement de Paris. Il a été créé par l'Unifab, l'Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété intellectuelle. 10 000 visiteurs viennent chaque année y apprendre à démêler le vrai du faux. Régis Messali, directeur général adjoint de l'organisation.
Alors, disons que lorsqu'on parle de contrefaçon dans l'inconscient collectif, on a plutôt tendance à s'imaginer qu'il s'agit plutôt de produits de luxe, des sacs à main, des montres, etc. Et comme on peut le voir dans la vitrine qui se situe juste là, on a des produits alimentaires et notamment une célèbre marque de gâteaux qu'ont l'habitude de consommer les enfants. Et on peut se rendre compte que même ça, c'est sujet à la contrefaçon. Donc en fait, la contrefaçon s'initie dans tous les pans en fait de... la maison de chacun, que ce soit dans son salon, que ce soit dans sa cuisine. Et ça, je pense que c'est extrêmement révélateur. Alors là, dans cette vitrine-là, vous allez avoir plutôt des produits médicaux, on va dire. Donc, qui est plus à même en tant que consommateur de reconnaître une pilule blanche d'une autre pilule blanche ? Personne. On ne sait pas quelle est la composition à l'intérieur, donc on va pouvoir retrouver dans le meilleur des cas du glucose, ce qui ne traitera pas et ne soignera pas le patient. En revanche, vous pouvez tomber aussi sur du plâtre, sur de la morora, sur tous ces types de produits-là qui sont extrêmement nocifs pour la santé.
Ouais, et là, je regarde un peu plus en détail. Alors, je vois des tests de grossesse, il y a des pilules où effectivement, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Je vois des préservatifs aussi dans des emballages qui ont l'air convaincants quand on regarde de l'extérieur. Et je vois aussi des masques en tissu. Là, il y a des masques qui donc ont été extrêmement demandés pendant la crise du Covid. Ça veut aussi dire que les contrefacteurs s'adaptent très vite aux besoins du marché.
Tout à fait. En convertissant leurs unités de production, des faux produits, à la vitesse grand V. C'est-à-dire que quand on a eu cette problématique du Covid où il fallait impérativement trouver des masques, bah, les unités de production se sont converties en production de faux masques, mais qui ne correspondent à aucune norme.
Donc là, on a notamment des imitations de parfums qui reproduisent parfaitement la tête des flacons, qui reproduisent parfaitement la couleur des parfums. On voit qu'il y a des petits soucis sur certains noms. Mais dans ces faux parfums, qu'est-ce qu'on retrouve ?
Alors, dans ces faux parfums, il peut y avoir de tout. Un très bon conservateur pour le parfum qui ne coûte pas cher, mais qui tourne extrêmement vite et qui peut risquer de provoquer des allergies, c'est l'urine animale, qui est utilisé par les contrefacteurs pour essayer de fixer la couleur et l'odeur du produit. Mais généralement, on se rend compte, selon les tests qui sont réalisés, que c'est un conservateur qui tourne extrêmement vite et qui peut porter atteinte à la santé du consommateur.
C'est ce que
que vous disiez, ils surfent sur les tendances, sur les, et sur les moments aussi de l'année. Hein. Donc voilà, l'hiver, c'est Noël. L'été, on va se retrouver avec des crèmes solaires de contrefaçon, des lunettes de soleil, des maillots de bain. Ce qu'il faut savoir, c'est que le vêtement, quand on va le porter, potentiellement la teinture est trop chargée en plomb. Donc on risque l'empoisonnement en fait à porter un produit qu'on a l'impression d'être anodin finalement. Oui.
Là, dans le coin des jouets, donc on voit effectivement des Barbies, tout ce qui est à la mode chez les enfants, la Reine des Neiges, des figurines, des pièces Harry Potter. Je voyais de l'autre côté des cartes Pokémon aussi. Là, il y a donc deux peluches côte à côte, une vraie et une fausse. C'est quoi la différence?
Alors, sur ces Teletubbies qui sont adorés par les enfants, donc vous avez l'authentique qui est faite d'une pièce. Et donc qui n'a pas de couture, qui n'a pas non plus en fait d'accès à interne, puisque cette peluche était aussi électronique, elle est censée parler, elle est censée bouger, etc. Sur la contrefaçon, là, comme vous pouvez le voir à l'arrière, vous avez déjà une fermeture éclair. Donc c'est-à-dire qu'un enfant de moins de 3 ans peut déjà désolidariser la fermeture éclair et la mettre à la bouche. À l'intérieur de cette peluche, vous avez un boîtier à piles qui est aussi, celui-ci s'enlève aussi extrêmement facilement. Donc on peut à la fois ingérer les piles, mais aussi le boîtier, des pièces du boîtier qui va se décomposer à la vitesse grand V, et la fermeture éclair. Les yeux aussi sont simplement collés, ils ne sont pas fixés comme sur l'authentique, donc le risque est plus sur ce type de produit. Alors, vous avez aussi le high-tech. Le high-tech qui est extrêmement touché. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors que, par exemple, la tablette que vous allez voir ici, elle contient une batterie. Cette batterie, généralement, elle est au lithium. Elle est étudiée justement pour éviter les cas de surchauffe, notamment, et éviter de pouvoir imploser au moment de l'utilisation. Ça, le contrefacteur, pareil, il va utiliser une batterie, en réalité, qui est une batterie de basse qualité, sans vraiment se soucier de savoir si elle surchauffe ou pas. Donc, on a entendu parler de beaucoup de cas de téléphones qui implosent à l'oreille, etc. Généralement, ce sont des produits de contrefaçon qui sont mis à l'intérieur. Et puis, vous avez dernièrement les pièces auto qui sont extrêmement touchées. Si vous voulez, je vous les montre. Ouais, donc les pièces auto sont extrêmement touchées aussi par le phénomène de la contrefaçon. Vous avez devant vous des rétroviseurs dont l'angle mort est invisible. Vous avez aussi des capots de voitures. Donc les capots authentiques sont étudiés en fait pour, en cas de choc, pouvoir se plier. La contrefaçon ne se plie pas. Donc c'est-à-dire que si on rentre dans un arbre ou on rentre dans un mur, le capot remonte tout simplement dans la voiture. Une fausse plaquette de frein, elle met 7 fois plus de temps à freiner qu'une plaquette de frein authentique. Donc en fait, les dangers sont tels que le contrefacteur s'immisce dans la vie du consommateur et que le consommateur doit impérativement savoir quel danger il encourt à consommer une contrefaçon.
C'est quoi l'impact sur l'économie française de la contrefaçon? Est-ce qu'on est capable de le mesurer?
Alors la contrefaçon, elle s'estime à 6,7 milliards de pertes de ventes directes en France. Ce sont des ventes qui ne sont pas réalisées dues à la présence de contrefaçon. C'est plus d'1,1 milliard de recettes publiques perdues aussi par les États.
Oui, puis c'est des emplois perdus aussi.
38 000 emplois perdus chaque année. Dû à la contrefaçon. Tout simplement parce que ce sont des investissements qui ne sont pas faits dans la recherche, dans le développement, et on investit beaucoup plus pour lutter contre la contrefaçon. La contrefaçon, pour lutter contre, elle peut représenter jusqu'à 10% du chiffre d'affaires d'une entreprise.
Régis Messali l'évoquait il y a quelques minutes, le jouet est concerné. Au niveau européen, les pertes liées aux contrefaçons représentent quasiment 9% des ventes du secteur, avec des risques pour la santé des acheteurs. Christophe Drevet, directeur général de la Fédération Jouets Puériculture.
Il faut savoir que le jouet, à juste titre, c'est le produit le plus normé, le plus contrôlé au monde. C'est normal, ça arrive dans les mains des enfants, des tout petits, voire des bébés. Donc nos produits doivent être absolument irréprochables. Donc tous ces fabricants de marques font tous leurs efforts pour respecter les normes. Aujourd'hui en Europe, vous avez une directive de la sécurité des jouets qui est tout à fait bien suivie. Et on a fait des études récentes. En tout cas, l'Europe, chaque année, fait son rapport sur les produits rappelés, ce qu'on appelle le RAPEX ou Safety Gate. Donc chaque année, l'Union européenne fait le bilan des produits non conformes et dangereux, notamment dans le cadre du jouet. On a été plus loin dans l'étude du rapport 2022 et on s'est rendu compte que 98,6% des jouets qui ont été rappelés parce que non conformes ou dangereux, donc quasiment 100% des jouets, étaient des jouets sans marque, provenant d'opérateurs totalement inconnus et étant vendus principalement via les places de marché en ligne. Et donc on voit bien que pour nous, malgré tous les efforts que les fabricants vont faire pour mettre des produits sûrs sur le marché, ces contrefaçons, ces produits qui passent sous les radars de tous les contrôles, génèrent la majorité des produits dangereux et non conformes. Donc c'est un réel problème et c'est à ça qu'on doit s'attacher en priorité si on veut réduire de façon drastique les éventuels jouets dangereux.
Et justement, qu'est-ce qu'ils ont de dangereux pour un enfant ?
Les produits des marques qui prêtent la plus grande attention, ce sont des produits qui vont être contrôlés à toutes les étapes de la chaîne, qui vont répondre de façon extrêmement rigoureuse aux normes européennes, aux normes mondiales. Par exemple, si vous avez un petit jouet préscolaire à tirer, un petit canard en bois qu'on tire, il faut savoir que la petite ficelle doit répondre à une longueur maximale pour éviter que l'enfant puisse s'étrangler avec. Et cette longueur de ficelle, alors ça a l'air tout simple comme ça, mais c'est extrêmement encadré. Et quand le produit passe dans les laboratoires d'essai pour être testé et déclaré conforme par les marques qui le font, s'il y a 2 mm de trop, le produit est considéré comme non conforme et il n'est pas accepté à la vente. On voit sur ces plateformes des petits canards en bois que l'on va tirer ou un petit nounours qui joue du tambour, et bien la ficelle est pas du tout aux normes, elle est bien trop longue par rapport à ce qui est autorisé. Alors ça se joue à ce genre de choses, ou alors des pièces qui sont mal fixées et qui pourraient se détacher, des petites pièces que l'enfant pourrait ingérer. Voilà, c'est souvent ces problèmes, donc des problèmes, ce qu'on appelle les problèmes mécaniques, ou alors certains qui ne respectent pas non plus l'utilisation et les composants des plastiques et qui vont mettre des produits qui sont désormais interdits dans les produits jouets, dans les plastiques, et qu'eux ne vont pas s'embêter ou s'embarrasser à contrôler. Donc voilà, il y a toutes sortes de problèmes et il faut trouver des solutions pour freiner l'arrivée de ces produits sur les plateformes, produits contrefaits et produits non conformes et dangereux.
Et sur le jouet, est-ce qu'il y a des domaines du jouet ou des périodes de l'année plus à risque, entre guillemets ?
Ces fabricants malhonnêtes connaissent les cycles, donc 2/3 du jouet se vend à Noël, donc c'est bien sûr en fin d'année qu'il y aura le plus d'offres. Simplement aujourd'hui, par ce système de vente sur Internet qui est extrêmement simple, on se rend compte qu'ils sont actifs tout au long de l'année. Voilà, il n'y a plus de répit, et dès qu'ils voient un concept qui fonctionne bien sur un marché, ils ont cette capacité à copier très rapidement, en respectant pas toutes les normes, donc ça leur coûte moins cher à produire. Donc en plus, ils arrivent sur le marché avec une offre qui est bien moins élevée. Et dans le contexte actuel de crise économique, de baisse de pouvoir d'achat, c'est vrai que la tentation est grande pour le consommateur de se dire « ça ressemble en tout point à ce jouet star des cours de récré, simplement il coûte 3 fois moins cher ou 4 fois moins cher, je vais le prendre et puis ça va m'être livré dans 48 heures ». On ne peut pas en vouloir au consommateur qui laisse ce réflexe ou cette envie. Simplement, quand il fait ça, il faut qu'il se pose la question si ce jouet ressemble sur la photo en tout point à ce jouet star des cours de récré, mais qui coûte 4 fois moins cher, c'est qu'il y a forcément un souci. C'est que ce n'est pas le bon jouet. Dans le meilleur des cas, ça n'est qu'une contrefaçon de la marque, mais très probablement, c'est en plus un jouet qui va être non conforme et peut-être dangereux.
Direction maintenant Courbevoie, en région parisienne, au siège de l'INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle. La problématique y est scrutée de près, même s'il est difficile de mesurer avec précision le nombre d'entreprises touchées par la contrefaçon, reconnaît Dominique Faure, le directeur général de l'INPI.
Sur le principe, on n'avoue pas qu'on est contrefait. Une entreprise, elle n'aime pas dire qu'elle s'est fait contrefaire ses produits parce que ça porte atteinte à son image. Donc, on peut le comprendre. Donc, par nature, il est difficile d'estimer cette proportion. Néanmoins, on a quand même des études faites par l'Office européen de la propriété industrielle. On a des études que l'on fait nous-mêmes avec les branches industrielles. Et une étude qu'on a menée récemment avec la CPME montre qu'en gros, on a à peu près 1/3 des PME seulement qui protègent leurs actifs immatériels, donc qui ont recours aux brevets, marques et dessins modèles. Et dans la même étude, il y a à peu près 1/3 des PME qui nous disent avoir été un jour victimes au sens large d'actions de contrefaçon. Donc c'est quand même une réalité, vous voyez.
Souvent, on imagine
que la contrefaçon, ça va toucher les grandes maisons du luxe, notamment. On a vraiment cette image-là du faux sac Vuitton ou faux sac Hermès, faux sac Chanel, etc. On ne va pas tous les faire. Et c'est déjà dur pour ces entreprises-là, parce que c'est un manque à gagner, c'est des emplois qui ne sont pas créés. Mais on sait aussi qu'elles ont les reins solides, qu'elles ont les services juridiques pour les aider dans cette lutte. Pour des PME, c'est quand même très préoccupant. Imaginez des petits artisans, des petites entreprises en difficulté.
C'est exactement le problème. C'est-à-dire qu'on a la chance en France d'avoir un tissu de PME très innovant, fortement exportateur. On a des très très belles entreprises en France et qui souvent n'ont pas le temps ou la culture de la protection par la propriété industrielle et de manière naïve un peu, je dirais, partent à l'export. Et on a des exemples, je ne voudrais pas citer d'entreprises, mais d'entreprises qui avaient fait des poussettes très performantes et qui ne s'étaient pas protégées parce que pour aller sur le marché vite, ça se comprend. Et puis, les pays asiatiques d'une certaine taille les ont copiés avec leur force de frappe, là, et les entreprises disparaissent parfois. Et ça, c'est dramatique, alors qu'on a, on a beaucoup d'atouts. Donc, vraiment, le conseil, c'est penser à vous protéger le plus tôt possible. C'est pas compliqué, c'est pas cher. Et si vous avez des questions, il faut venir voir l'INPI. On conseille tout le monde de manière gratuite, on est un acteur public. Et une fois qu'on a compris, c'est pas très compliqué.
Chaussures, vêtements, tabac. Hier matin, ces produits frauduleux saisis par la douane de l'Ouest parisien ces deux derniers mois ont été détruits, envoyés à la broyeuse.
Détecter les produits de contrefaçon, bien souvent importés d'Asie, remonter les filières, lutter contre leur prolifération, c'est la mission des douanes françaises. Une activité bousculée par l'explosion des achats en ligne.
Yann Ambach, je suis chef du bureau politique tarifaire et commerciale au sein de la Direction générale des douanes et droits indirects.
Alors la douane, c'est l'administration de la frontière. Frontières maritimes, aériennes, terrestres, mais également frontières numériques. Nous avons dû adapter nos actions de sensibilisation, les actions de contrôle aux nouvelles modes de consommation. Donc ça c'est fondamental. Donc de l'autre côté, on a dû adapter nos techniques de contrôle, on a dû adapter nos techniques de ciblage, mais également, je dirais, les actions de sensibilisation à des publics qui sont beaucoup plus sensibles aujourd'hui aux achats sur Internet. Voilà. Donc ça a été une véritable révolution ces dernières années, avec une accélération liée, je dirais, à la crise sanitaire qui a fait exploser les modes de consommation. Et ça se traduit aujourd'hui que sur les près de 11 500 000 articles de contrefaçon saisis en 2022 par les services douaniers, 60% des saisies de contrefaçon le sont suite à achats sur Internet.
Ouais, puis j'imagine que ça va être, même sur le côté terrain, ça va être... Enfin, c'est pas la même chose d'aller saisir dans des petits colis déjà achetés directement sur un site à l'étranger que lorsqu'il y avait un grand conteneur rempli de contrefaçons. Ça change tout quand même.
Complètement. C'est-à-dire entre un conteneur de 5-6 tonnes de marchandises avec une grosse partie contenant des contrefaçons et des colis sur chaîne de tri, pour être très concret, avec 2-3 paires de chaussures, effectivement. On a un changement de paradigme et un changement de type de contrôle à effectuer.
Alors là, on n'a pas du numérique, mais est-ce qu'on a vu d'autres tendances à la hausse ou à la baisse dans le nombre de contrefaçons saisies, dans le nombre de contrefaçons en circulation ou dans la nature des saisies elles-mêmes, de ce qu'il y a dans ce que les contrefacteurs trafiquent ?
Alors, on a une hausse régulière des saisies de contrefaçons. C'est vrai qu'entre 2021 et 2022, on a à peu près 20% d'augmentation des saisies, avec près de 12 millions de contrefaçons saisies. Alors c'est lié à deux choses, sans doute à l'efficacité des services douaniers, mais je pense malheureusement également lié, je dirais, à l'explosion du nombre de contrefaçons. Et il faut imaginer contrefaçons de meilleure qualité aussi aujourd'hui, de vrais circuits de fraude. Hein, quand on achète une contrefaçon, on alimente des réseaux de criminels, un réseau criminalisé, il faut l'avoir à l'esprit. Ce n'est pas un achat neutre, ce n'est pas un achat sans conséquences, puisque derrière ce sont des réseaux criminels qui à la fois font fabriquer dans des conditions bien évidemment humaines que l'on peut imaginer, dans des conditions environnementales qui sont également très déplorables, et qui également, ces réseaux criminels, alimentent des circuits, je dirais, d'autres criminalités tout aussi importantes.
Alors là, je suis dans le 17e arrondissement de Paris. Je vais aller rencontrer Maître Fabiani, qui est l'une des avocates spécialistes de la question de la contrefaçon. Bonjour madame.
Ce que vous voyez là, c'est qu'il y a des contrefaçons partout.
Dans le bureau de Marie-Hélène Fabiani, on trouve des tableaux de contrefaçons sur lesquels sont apposés des scellés de justice. Une lampe design créée par un client et sa copie par un contrefacteur. Des bijoux saisis par des huissiers entassés dans les placards. Des pièces accumulées au fil des procédures judiciaires.
Ouais, donc en fait, là, c'est la caverne d'Ali Baba de toutes les contrefaçons qui ont été saisies. C'est impressionnant.
J'aimerais bien parfois les rendre aux clients, mais quelquefois ils ne les veulent pas. Mon bureau se transforme en musée de la contrefaçon.
Là, par exemple, c'est la pochette originale.
Oui, c'est très joli.
Pochette très brodée. Très voilà. L'original est vendu de mémoire 540 euros, c'est cher. Et là, c'est la copie. Et la copie est vendue de 60 euros, voilà, forcément.
Et alors, c'est le tissu n'est pas le même, mais le motif est exactement pareil. Je le décris pour les auditeurs, il y a des petits oiseaux rouges, des fleurs jaunes, même les détails de végétation à l'arrière-plan sont reproduits à l'identique. Et oui, c'est le même motif, il n'y a pas de
manteau aussi. Voilà, hop. Et donc là, le motif original avec un soleil, et là, le même. Et donc, évidemment, ça, on l'a saisi à Aubervilliers. Et voilà la saisie de huissier, c'est-à-dire que ça a été mis sous scellé. Mmh. Et donc, suite à la saisie, nous avons assigné. Et bon, je ne veux pas insulter l'avenir, mais on devrait gagner.
Oui.
En réalité, il y a deux façons d'assigner en contrefaçon. Il y a le civil, où là, pour le coup, on ne parle pas de prison, on parle juste de dommages et intérêts. Donc là, pour le coup, nous avons assigné au civil. Donc nous aurons vraisemblablement l'interdiction pour le contrefacteur de continuer à vendre sa pochette contrefaisante et des dommages et intérêts pour réparer notre préjudice. Et après, nous avons une spécificité, nous allons au pénal. Pour le coup, nous allons au pénal, surtout en contrefaçon de marque et parfois en dessin et modèle, notamment pour des montres. Et là, en droit pénal, on dépose une plainte. En fait, il y a plusieurs façons de faire. Très souvent, ce sont les douaniers qui, à la base, se rendent compte qu'il y a des contrefaçons, ils font une saisie douane. Ils interrogent la marque, on dépose plainte, et ensuite on se retrouve devant le tribunal correctionnel à plaider les faits de contrefaçon. De temps en temps, la procédure peut être initiée par nous, c'est-à-dire que nous voyons des contrefaçons, nous trouvons ça assez grave et assez évident pour aller au pénal, et là, nous déposons notre plainte et nous plaidons après devant le tribunal correctionnel. Alors, au tout début, quand on a commencé à faire du pénal de la contrefaçon, évidemment, nous obtenions des condamnations, parce que nous sommes partie civile, donc il faut que le parquet suive et poursuive également. Le parquet, évidemment, poursuivait, mais il était un peu timide. Et les peines requises étaient, on va dire, symboliques. Les dommages et intérêts alloués étaient également symboliques, parce que on va dire qu'on ne voyait pas le point. Mais là, depuis bien 7 ans, ça y est, c'est rentré dans les esprits. On parle vraiment d'ordre public économique. Les juridictions ont compris que derrière, il y avait le principal asset d'une marque, c'est sa propriété intellectuelle, c'est sa marque. Un vrai savoir-faire avec des emplois qui pouvaient être détournés. Des clients qui se détournaient du produit original parce qu'ils voyaient des copies partout, notamment Opus, par exemple. Et là, on obtient de bonnes décisions. C'est-à-dire que là, récemment, par exemple, là, on a eu 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour un contrefacteur. On parle de 61 t-shirts contrefaisants et 6 bonnets. Les peines d'amende peuvent être importantes. Et là, on a en moyenne générale, voilà, par exemple, on a eu 4 mois d'emprisonnement pour 43 pulls. Bon. Et là, on a eu un bon résultat. C'était à Marseille, 18 mois d'emprisonnement. Aménagé directement en détention à domicile sous surveillance électronique. C'est-à-dire que là, le contrefacteur a tout de suite eu le bracelet électronique pour de la contrefaçon. Alors c'était un gros réseau à Marseille, et 18 mois, oui, c'est bien. Ce qui est intéressant, nous, ce qu'on voit dans nos dossiers en droit pénal, c'est que, alors il peut y avoir de la contrefaçon seule, et alors ça, pour le coup, c'est très souvent adossé, grâce aux réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils vendent sur, via Instagram, des messages Snapchat, c'est plutôt bien fait. Mais en réalité, dans pas mal de dossiers, on s'aperçoit que la contrefaçon est, on va dire, le complément à un autre trafic. Et nous, on le voit, il y a beaucoup de... Enfin, souvent, les dossiers commencent par du stupéfiant. Les OPJ interviennent et ça bascule en contrefaçon parce que le trafiquant de stup a une activité accessoire, ou pas d'ailleurs, qui est la contrefaçon. Alors après, qui finance quoi, je ne sais pas. Mais souvent, ça va de pair.
Ça peut être une activité complémentaire, entre guillemets, comme un...
C'est ça, complémentaire. Et en réalité, moins risqué, parce que, encore une fois, dans l'esprit des contrefacteurs, finalement, c'est moins risqué de vendre de la contrefaçon que de vendre du stupéfiant. Parce que, mine de rien, la contrefaçon, même si on obtient de belles décisions avec des peines d'emprisonnement, il n'y a pas encore de mandat de dépôt à la barre. Bon, là, il peut y avoir un bracelet électronique, mais voilà, c'est pas encore si grave, entre guillemets. Bon, après, dans les faits, il faut être objectif, c'est sûr que c'est pas non plus la même chose, on ne vend pas la même chose. Mais ça commence, les peines commencent à bien monter, voilà.
En théorie, le vendeur de contrefaçon risque jusqu'à 300 000 euros d'amende et 3 ans de prison. Le détenteur, une amende lui aussi, jusqu'à 2 fois la valeur de l'objet authentique au cœur de la fraude. Une sanction qui ne semble pas inquiéter les consommateurs. En France, selon l'Unifab, 4 sur 10 ont déjà acheté de la contrefaçon. Et parmi les cibles des trafiquants, il y a les jeunes. Les douanes mènent donc des opérations de sensibilisation auprès de ces publics.
Je suis Valérie Brochet, adjointe au chef du bureau politique tarifaire et commerciale, donc Commun 3, au sein de la Direction générale des douanes et droits indirects. Donc il nous arrive, dans le cadre d'actions de sensibilisation, de rencontrer des jeunes pour leur expliquer le rôle de la douane en matière de lutte contre la contrefaçon et pour leur expliquer quels sont les dangers qui sont liés à la contrefaçon. Et c'est toujours très intéressant de recueillir également leur avis sur le sujet. On perçoit assez régulièrement que les dangers ne sont pas toujours estimés à leur juste hauteur. Voilà, les produits de contrefaçon sont des produits dont la fabrication ne répond à aucune norme, il n'y a aucun contrôle, qui sont produits en plus dans, on va dire, des conditions qui ne respectent pas forcément le droit du travail. Et les jeunes ne se rendent pas compte qu'ils se mettent en danger lorsqu'ils achètent des chaussures dont le cuir a pu être traité avec des produits particulièrement toxiques et nocifs, lorsqu'ils achètent des t-shirts également, hein, qui ont pu avoir été traités avec des produits dangereux, lorsqu'ils achètent des parfums qui contiennent des produits particulièrement, dangereux et qui n'ont rien à faire dans des parfums. C'est très intéressant d'échanger avec eux et de leur ouvrir les yeux sur les réalités. Derrière un objet banal, il peut y avoir des conséquences assez lourdes.
Les consommateurs les plus à l'aise avec l'idée d'acheter la contrefaçon, c'est les plus jeunes.
Oui, alors il y a quelques études qui l'ont montré, notamment une dernière faite par l'INPI et l'UNIFAB de mémoire. Ils semblent les plus à l'aise, ils en parlent aussi. Et effectivement, alors ils sont à l'aise pour en parler et ils sont consommateurs peut-être aussi à cause du coût d'un certain nombre de produits qui les attirent et qui se retrouvent sur le marché de la contrefaçon.
Deux volets d'action donc, sanctionner les contrefacteurs, sensibiliser les acheteurs. Mais la France pourrait-elle faire plus ?
On essaye de faire mieux, mais on n'est pas encore au niveau.
C'est l'avis d'un député. Christophe Blanchet, élu Modem du Calvados, est président du CNAC, le Comité National Anti-Contrefaçon. Il a coécrit 2 rapports parlementaires sur le sujet en 2020 puis en 2023.
On dépasse les 10 milliards d'euros en France, le volume contrefaçon. 10 milliards, c'est ce qu'on aurait besoin, c'est 1/6 du budget de l'éducation nationale. Voilà, donc il y a peut-être de l'argent à récupérer. Le tabac contrefait en France, c'est 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros, c'est autant que le volume de la drogue en France. 3 milliards d'euros, la drogue, on dit qu'on mène un combat contre la drogue et c'est juste. La contrefaçon de tabac, c'est l'équivalent 3 milliards d'euros. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des réseaux criminels qui se transfèrent progressivement de la drogue vers le tabac parce que ça rapporte plus, beaucoup moins d'investissement et beaucoup moins de risques de sanctions aujourd'hui, même s'il y a des propositions que j'ai formulées. Dans le précédent rapport, on avait montré quand même les liens du tabac contrefait avec le financement des réseaux terroristes de Boko Haram.
Quel levier existe pour essayer d'endiguer cette prolifération de la contrefaçon ?
Dans mes propositions, à la fois du rapport que j'ai fait effectivement en 2020 avec Pierre-Yves Bournazel, il y avait le fait de créer des tribunaux spécialisés pour accélérer les procédures, parce qu'aujourd'hui, il y a un sujet là-dessus. Donc oui, il y a la responsabilisation pénale, il y a la saisie des avoirs criminels dus à la contrefaçon, il y a différentes mesures de facilitation que j'ai proposées à travers une proposition de loi sur harmoniser les prérogatives des officiers de police judiciaire et agents de douane. C'est simplement pour faciliter à des agents qui travaillent sur la contrefaçon le fait de pouvoir, aujourd'hui, prendre sur Internet des gens qui vendent de la contrefaçon.
Et Christophe Blanchet s'interroge à l'approche des Jeux Olympiques de Paris, un événement qui doit attirer des millions de touristes. Le village olympique est à 2 pas des puces de Saint-Ouen, où les ventes de produits dérivés de contrefaçon pourraient exploser. La fête du sport pourrait aussi devenir une fête du faux.
«
Contrefaçon, faux produits, trafic authentique, c'était un reportage de Diane Berger avec Annie Brault à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Avec nous pour réagir à ce reportage, Claire Castel, autrice du dernier rapport de l'EIPO sur la contrefaçon. Alors moi, ce que je retiens du reportage de Diane, c'est que si l'on paye beaucoup moins cher, c'est qu'il y a un loup. Dans un produit de marque, on ne paye pas seulement le logo, mais tout un processus de fabrication et des contrôles qui nous donnent des garanties, notamment de sécurité. C'est bien ça, Claire Castel ?
Tout à fait. Les entreprises qui protègent leurs produits hein, par des marques, des dessins et modèles, des brevets, si on pense aussi aux brevets, hein, il y a toute une procédure derrière, il y a tout un système de production qui, évidemment, respecte les règles socio-économiques, mais aussi environnementales, et de protection des consommateurs. Donc, évidemment, c'est très important de lutter contre la contrefaçon et de rendre les consommateurs conscients que l'achat de contrefaçon n'est pas du tout anodin et outre l'impact sur l'entreprise, sur l'emploi, sur les ventes légitimes des différents secteurs, il y a aussi un impact personnel du consommateur qui prend des risques pour sa santé et sa propre sécurité.
Manifestement, ce message a du mal à passer auprès des consommateurs.
Ce message a du mal à passer. Il faut en général être soi-même victime pour vraiment prendre conscience des risques. Et beaucoup d'associations de consommateurs, notamment au Portugal, en Italie, en Espagne, en Bulgarie, commencent à être sensibilisées et sont en train de mettre en place des campagnes de sensibilisation auprès des consommateurs. Parce que malheureusement, il n'y a aucun recours. Une fois que vous avez acheté de la contrefaçon, le problème se fait évidemment beaucoup en ligne. On a entendu dans le reportage les ventes physiques sur les marchés ou les puces, mais l'essentiel maintenant des ventes de contrefaçon se fait quand même encore beaucoup en ligne avec l'explosion du commerce digital. On l'a vu avec la période Covid. Et donc là, peu de recours.
Ça ne sert pas à grand-chose de porter plainte.
Ça ne sert pas à grand-chose, d'autant que la plupart des consommateurs sont aussi dupés eux-mêmes. Ils pensaient acheter du vrai, ils pensaient acheter de l'authentique, ils vont sur une plateforme, ils vont sur un site qui a l'air tout à fait bien fait, avec des jolies photos. Et malheureusement, le produit qu'ils reçoivent, ils se rendent compte trop tard, quand il arrive, parce que parfois, ils n'arrivent même pas, ils se rendent compte quand il arrive que c'est un faux. Et donc là, il y a aussi beaucoup de consommateurs qui sont authentiquement grugés, je dirais, et qui pensent acheter de l'authentique, et qui malheureusement... Derrière, on l'a dit aussi dans le reportage, il y a beaucoup de criminalité organisée et donc ces gens-là ne sont pas des enfants de cœur et donc ils font les choses très très bien.
Donc il faudrait être vigilant et donc vraiment vérifier l'authenticité de ce qu'on achète en ligne, mais comment ?
Alors il y a différents conseils qu'on peut donner généralement aux consommateurs, donc de regarder les sites sur lesquels ils achètent. Et l'adresse, regarder les contacts, regarder où est la provenance, d'où est envoyé le produit, s'il y a un lien avec des systèmes de paiement officiels, regarder l'adresse elle-même, les revues. Bon, il faut faire attention aussi parce que là, il peut y avoir aussi des fausses notifications. C'est pas simple. Les services de police, de douane luttent aussi en termes de cybercriminalité, mais de manière ultime, c'est le consommateur qui doit vraiment être très très vigilant hein, et essayer d'acheter sur des sites qu'ils connaissent, dont ils ont vérifié la légitimité et en étant sûr de recevoir un produit authentique.
Et Madame Castel, vous avez évoqué la période du Covid où on a multiplié les achats numériques. Est-ce qu'au fil des années, on a vu une évolution dans un sens ou un autre de justement la prise de conscience de ces consommateurs des potentiels risques ? Est-ce qu'il y a une évolution de la tolérance des acheteurs ou en tout cas de leur vigilance sur le sujet ?
Bon, je crois que les consommateurs sont devenus relativement assez conscients des risques d'achat en ligne avec la période Covid. Et il y a eu beaucoup d'arnaques, il y a eu beaucoup de cybercriminalité, il y a eu beaucoup de fraudes. Donc pas seulement la contrefaçon, mais la contrefaçon en est un volet très important. Et donc les gens ont fait attention. Par expérience, je dirais, malheureusement, il faut se faire attraper... une fois ou deux, pour devenir extrêmement vigilant, pour commencer à regarder où vérifier, comment vérifier. Et c'est très pernicieux. Les services de douane, de la police font ce qu'ils peuvent. Malheureusement, le volume du commerce est tel qu'il faut absolument avoir les consommateurs comme gardien ultime de la légitimité d'un produit et de son authenticité.
Mais aujourd'hui, il faut dire que beaucoup de consommateurs achètent aussi consciemment de la contrefaçon. Donc là, il y a une prise de conscience supplémentaire qui doit être qu'ils sont complices d'un crime.
Ils s'en rendent pas toujours compte. Ils achètent, et on l'a vu sur différents types d'études que nous avons fait en termes de perception des consommateurs, ils sont plus tolérants à certains types de produits contrefaits que d'autres. Donc, ils vont prendre le risque d'acheter des produits contrefaits qui sont liés à la mode, l'habillement, le textile, les chaussures. En revanche, ils n'auront probablement pas la même attitude si on leur dit il faudrait acheter un jouet ou il faudrait acheter un produit cosmétique. Là, ils vont quand même faire le lien entre ce qu'ils mettent sur leur peau, ce qui pourrait donner dans les mains d'un enfant, avoir un risque dramatique. Donc là, ils sont quand même relativement vigilants.
Mais... Enfin, quand même, sur les cosmétiques, ils n'ont pas l'air si vigilants que ça.
Et les vendeurs de parfums aux puces de Saint-Ouen ne prenaient pas, eux, conscience du risque lorsqu'ils testaient le parfum sur leur propre peau.
Oui, et c'est un travail de longue haleine. Malheureusement, il faut sensibiliser les consommateurs encore et encore et encore.
Et donc, de quelle manière ?
Alors, des campagnes, des reportages comme le vôtre, je crois que c'est tout à fait indispensable. Des informations auprès des jeunes. Donc, on travaille beaucoup avec des actions sur les médias sociaux. On essaye de travailler aussi avec des influenceurs pour pouvoir passer certains messages. Donc, évidemment, les consommateurs sont peut-être, surtout les jeunes consommateurs, sont probablement plus sensibles à des commentaires de leurs influenceurs ou de leurs créateurs de contenu habituels que ceux d'une agence loin et beaucoup plus institutionnelle. Donc, on a aussi essayé de développer dans les écoles des actions de formation. Donc là, évidemment, on travaille aussi avec les ministères de l'Éducation, de manière à intégrer dans les curriculums un lien, une sensibilisation au respect de la propriété intellectuelle.
Et là, ça marche auprès des enfants, quand on vient leur parler directement ?
Ben, nous, on l'a fait sur Alicante. On a fait une opération dans l'école européenne d'Alicante, où on a un public très varié, donc à partir de 6 ans jusqu'à 18. Et donc, les petits comprennent très bien. Vous prenez un dessin qu'ils ont fait eux-mêmes, vous mettez le nom de quelqu'un d'autre dessus, et là, ils comprennent très bien ce que ça veut dire, le vol de propriété intellectuelle. Et donc, il y a moyen d'expliquer, il y a moyen à chaque tranche d'âge, à chaque niveau d'éducation, d'expliquer. On peut leur expliquer les logos, on peut leur expliquer le fait de mettre son nom sur quelque chose qu'on a fait. On peut leur expliquer le processus du travail avec l'enregistrement d'un certain savoir-faire, d'un certain produit, d'une certaine marque. Ça, ils comprennent. Et petit à petit, au fur et à mesure de l'âge, on peut aussi introduire des éléments plus concrets au fur et à mesure qu'ils rentrent dans l'éducation et ça sera utile pour leurs différents métiers.
La France est donc le deuxième pays du monde touché par la contrefaçon. Est-ce que c'est parce que nous avons beaucoup de marques prestigieuses ou parce qu'il y a plus qu'ailleurs des trous dans la raquette ?
Bon, la France est touchée sur les cosmétiques, par exemple, parce que l'industrie est assez importante. D'autres pays sont touchés à différents titres et à différents niveaux, ça dépend. On n'est pas spécialement ciblé, mais effectivement, à partir du moment où on a une industrie florissante avec des jolies marques, ça attire d'abord les consommateurs qui veulent légitimement acheter les produits et les belles marques qui sont mises sur le marché de manière légitime. Et ça attire malheureusement aussi les contrefacteurs et les criminels qui veulent profiter de cet intérêt pour les marques et qui veulent faire du bénéfice.
Réprimer ces trafics, c'est difficile. Les saisies par les services de l'État augmentent significativement, mais moins vite que le développement du commerce de la contrefaçon.
Alors, les services des douanes sont absolument merveilleux. Ils font un travail remarquable. Malheureusement, ils ont aussi des contraintes de ressources et des contraintes de temps. Et la criminalité organisée, malheureusement, elle ne chôme pas. Et donc, on a vu aussi l'explosion de petits paquets, donc des envois postaux. Donc, et c'est des millions de petits paquets. Si vous allez visiter la zone de fret à Roissy, c'est, je crois, 8 millions de petits paquets qui arrivent par jour. C'est absolument énorme. Et donc, il est évidemment impossible de stopper chaque petit paquet. Et ils sont principalement utilisés d'ailleurs pour envoyer des médicaments, des produits pharmaceutiques, des cosmétiques, des petites choses. Et donc, c'est impossible de tout stopper. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, et on le voit, la lutte contre la contrefaçon, c'est une lutte qui doit être multi-acteur, hein. Une collaboration du public, du privé, une collaboration des douanes, des services de police, des entreprises. Elles font énormément pour sécuriser leur chaîne de production, pour vérifier leurs fournisseurs, pour vérifier les marchés. Hein.
Mais alors justement, comment est-ce que les entreprises se protègent? Quelles sont les armes à leur disposition, à leur niveau?
Oh bah ils en ont beaucoup. Ils utilisent différents types de systèmes. Ils ont les nouvelles technologies. Ils utilisent des systèmes pour tracer leurs produits. Ils ont mis en place des systèmes de collaboration avec les autorités douanières, policières. De plus en plus, ils collaborent aussi avec les plateformes de commerce en ligne. On ne va pas les citer, mais ils sont généralement très, très en collaboration avec ces plateformes. C'est de la longue haleine. Ils investissent beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup de services sont impliqués. Évidemment, ça, c'est pour les grandes entreprises. Imaginez bien que pour une petite entreprise ou pour un créateur, c'est évidemment extrêmement difficile. Extrêmement difficile.
Alors qu'il y a effectivement beaucoup de PME qui sont concernées par la contrefaçon. Alors, les outils juridiques ne sont pas toujours très efficients parce que ça va prendre du temps d'avoir recours à la justice.
Alors, souvent, le crime de contrefaçon, c'est souvent un délit dans énormément de pays européens. Donc, en termes de sanctions, hein, c'est assez léger. Hein, et les criminels ne s'y trompent pas. Ils préfèrent investir leurs efforts dans la contrefaçon. Il y a moins de risques et aussi il y a moins de risques de sanctions. Et les sanctions sont moins élevées. Donc, le retour sur investissement est excellent.
Et est-ce que, justement, il y a des pays dont la France pourrait s'inspirer pour lutter contre la contrefaçon, ou est-ce qu'on est un peu tous à égalité avec les mêmes armes et les mêmes méthodes?
Bon, certains pays sont un peu plus stricts avec la contrefaçon. Hein. Je ne les ai pas en tête, mais certains criminalisent avec des peines de prison. Hein. Et après, tout dépend aussi du degré du volume de contrefaçon et du degré de risque que l'on fait courir. Donc, je n'ai pas en tête les différents régimes juridiques des pays, mais certains pays sont plus stricts que d'autres.
À vos yeux, sur quel levier est-ce qu'on pourrait agir davantage en France? Est-ce que c'est prioritairement la prévention avec la sensibilisation des consommateurs, comme on l'avait évoqué, ou est-ce que vraiment le volet répression mérite d'être accentué?
À mon sens, le volet sensibilisation est le plus important à développer maintenant. Je crois que la France, au niveau répression, fait vraiment tout ce qu'elle peut. Hein. Et vous l'avez vu avec les collègues de l'UNIFAB et les douanes et la police. Là où il y a vraiment une marge de manœuvre, c'est la sensibilisation. Je crois que les associations de consommateurs en France pourraient se saisir avec intérêt de ce sujet, parce que nous, on les a trouvées un petit peu silencieuses, pour tout vous dire, comparées à d'autres associations européennes d'autres pays. Donc, j'avais cité le Portugal, l'Italie, l'Espagne, la Bulgarie. En France, je crois qu'il y a encore une possibilité de se saisir de ces sujets. Et c'est bien d'en parler dans la presse, c'est bien d'en parler à la télé, à la radio, dans des chaînes où les gens écoutent, à des moments où ils écoutent aussi.
On a entendu le député Christophe Blanchet, et dans son rapport, il estime que l'on peut progresser dans la lutte contre la contrefaçon en agissant avant tout au niveau européen. C'est le meilleur niveau à vos yeux ?
Tous les niveaux sont les bons, je dirais. Il faut être partout. Hein. Il faut être au niveau national, il faut être au niveau européen. Dans notre réseau européen, nous avons des autorités nationales de chaque pays. Nous avons le secteur privé qui est représenté, la société civile, d'autres agences européennes. Donc, c'est dans cet imbriquement de force et de dynamique et de collaboration qu'on va essayer de faire changer les choses, aussi au niveau international.
Alors, le premier pays d'origine de ces produits, c'est la Chine. Quel est le palmarès, entre guillemets, des pays contrefacteurs?
Alors, effectivement, beaucoup de produits proviennent de Chine, de Sud Asiatique, du Sud-Est Asiatique. Certains pays sont spécialisés aussi dans certains types de produits, hein. Pas seulement la Chine. Hein. Donc, on a aussi beaucoup de produits contrefaits qui viennent d'autres pays, que ce soit l'Inde, que ce soit le Sud-Est Asiatique, la Turquie, pour certains types de produits. Ce qu'on voit aussi beaucoup, et ce qu'on a vu avec les études que nous avons faites avec l'Office européen de police, c'est que énormément de produits arrivent en Europe. Ils sont sans label, sans étiquette, sans logo. Et l'assemblage et la contrefaçon se réalisent en Europe. C'est-à-dire que la production de contrefaçon se fait sur le territoire européen dans la mesure où on appose les étiquettes, on appose les faux logos, et c'est là que ça devient une contrefaçon.
Dans quel pays en particulier, en Europe ?
Tous.
Ah bon ?
Ça dépend du réseau criminel, ça dépend comment ils sont organisés. Il n'y a pas de pays spécifique, hein. Ce sont des chaînes.
Et il y a des tentatives d'accord avec les pays d'origine pour obtenir qu'ils mettent en place une législation plus stricte ou alors plus de contrôle ?
Bon, l'Union européenne travaille beaucoup avec les partenaires commerciaux, notamment la Chine, le Sud-Est asiatique, d'autres pays, que ce soit l'Amérique latine, l'Afrique. C'est de longue haleine, ils ont aussi leurs propres contraintes. Après, il y a une législation et puis il y a aussi ce que font leurs propres réseaux criminels. Donc c'est une lutte à tous les niveaux. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais il faut continuer.
Et donc cette criminalité, il faut quand même bien souligner que en fait, il ne s'agit pas seulement d'individus peu scrupuleux, mais vraiment de réseaux organisés.
Tout à fait. La production de contrefaçon, la distribution de contrefaçon et le fait d'organisations criminelles organisées, hein, qui, au même titre qu'elles œuvrent sur d'autres types de crimes, elles utilisent aussi la contrefaçon pour financer d'autres types de crimes, soit profitant d'autres types de crimes pour financer leurs opérations. Par exemple, le trafic d'êtres humains, blanchiment d'argent, tout ça contribue à la contrefaçon.
Donc c'est comme ça que le marché de la contrefaçon en vient à financer des groupes terroristes.
Bon, le lien est encore à creuser dans les détails, mais oui, ça a été dit.
Là, on a quand même l'impression que la lutte contre la contrefaçon, c'est vraiment essayer de vider l'océan à la petite cuillère.
C'est vrai que l'enjeu est énorme. L'enjeu est énorme, mais je crois que tous les acteurs qui sont impliqués depuis de nombreuses années ont la naïveté de penser que ce qu'ils font a un impact, et un impact notable. Parce que on voit que les actions finissent par créer des distorsions aussi dans les réseaux de criminalité sur la contrefaçon.
C'est-à-dire ?
Y a des opérations qui sont faites, donc finalement il y a des sites qui sont fermés, la police fait des saisies, finalement on remonte des filières, les entreprises finissent par travailler en amont aussi avec les pays. Donc tout ça, ça finit par créer des complications aussi pour les criminels. Ils rebondissent, ils font autre chose, mais ils sentent que la pression ne se relâche pas et qu'elle est à tous les niveaux aussi, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau des collaborations avec les partenaires commerciaux, que ce soit avec les entreprises. On travaille aussi beaucoup avec les plateformes, les actions de sensibilisation, les actions auprès des jeunes, le travail avec les influenceurs. Une autre action qui pourrait être faite, c'est aussi travailler plus avec les influenceurs. Parce que évidemment, le point important, c'est de cibler les jeunes, qui sont quand même encore les plus tolérants à l'achat de contrefaçon. Hein. Et donc, considérant qu'ils sont des intermédiaires importants et qu'ils ont une audience énorme auprès des jeunes, certains sont aussi parfois très ambigus dans la façon dont ils créent du contenu et sur les types de produits qu'ils arrivent à promouvoir.
Donc encore beaucoup de messages à faire passer. Merci Claire Castel. Le grand reportage Contrefaçon, faux produits, trafic authentique était signé Diane Berger et réalisé par Annie Brault. Et Louise Hillerito était à la technique. Enfin, merci à la documentation de Radio France. Pour réécouter cette émission de la rédaction ou un autre grand reportage, rendez-vous sur l'appli Radio France ou sur franceculture.fr.